Nous allons donc entendre maintenant Pierre-Jean Souriac, qui est donc également enseignant-chercheur à l'Université de Lyon 3, mais qui a une origine toulousaine, je crois bien, si je ne me trompe pas, et qui a fait une thèse qui s'appelle « Une société dans la guerre civile, le Midi toulousain au temps des troubles de religion ». 1562-1596, donc c'est vraiment la personne idoine pour faire le lien entre ce que nous venons de voir, une fresque de la situation européenne, et puis la situation de la France, et encore plus précisément la situation de notre région. Je lui cède donc la parole.
Merci beaucoup pour cet accueil et pour cette invitation. À l'occasion donc de ces événements qui ont ensanglanté Saint-Antonin et Nègrepelisse. Alors voilà, hein, vous l'avez compris, la démarche de la journée est de resserrer progressivement la focale sur la situation locale. Donc moi, Yves Roumanacker vous a parlé du contexte européen. Vous vous sentez bien agité et bien troublé. Pour ma part, je vais maintenant aborder la question franco-française. D'un rapport entre milieu protestant et milieu curial, et essentiellement le roi de France Louis XIII. La période qu'on va voir, donc, c'est les années 1620. Je ne vais pas être du tout dans le détail des opérations militaires qui vous seront rapportées cet après-midi. Cette période, c'est ce qu'on appelle généralement, ce qu'on peut trouver dans les bouquins, comme étant la dernière guerre de religion. Et tout à l'heure, Yves Krummenacker a fait ce petit lapsus en disant par rapport aux vraies guerres de religion, celles du XVIe siècle. Je ne sais pas s'il y a des vraies ou des fausses guerres de religion, mais grosso modo, quand un éditeur nous demande de faire un livre sur les conflits religieux en France, il veut qu'on parte des années 1560 et qu'on arrive aux années 1630, parce qu'il y a encore des protestants qui se battent à ce moment-là et qu'après, ils ne se battent plus. Voilà, la question, malgré tout, mérite d'être posée, puisque finalement, les campagnes militaires qu'on va avoir dans les années 1620, elles s'inscrivent vraiment dans un contexte très différent de ce qu'on a pu connaître au XVIe siècle. Et c'est le premier point introductif sur lequel j'aimerais insister. D'abord, voilà, cette singularité de ces conflits des années 1620, d'abord la situation du protestantisme. En fait, dans les années 1620, les protestants sont sous le régime de l'Édit de Nantes. Et en étant sous le régime de l'Édit de Nantes, j'y reviendrai, ce sera l'objet de la première partie, les réformés français ont des droits. Et des droits beaucoup plus importants qu'ils pouvaient en avoir au XVIe siècle, qu'ils pouvaient en avoir au début des guerres de religion. Et pendant ces 10 années de guerre, la question de la légalité du protestantisme en France n'est pas posée. Donc la question du droit... n'a pas du tout les mêmes enjeux qu'au XVIe siècle. Le protestant a droit de cité. Ça ne veut pas dire qu'on ne le massacre pas, attention. Hein. Mais si on se place sous la focale du droit, le protestant a droit de cité. Deuxième aspect, dans cette distinction des années 1620, tout le royaume n'est pas concerné par les affrontements. En fait, les guerres de Louis XIII face aux protestants vont concerner l'Ouest, avec le fameux siège de La Rochelle, la vallée de la Garonne, cette région entre Gascogne et au Languedoc dans laquelle nous nous trouvons, et puis le bas Languedoc, l'ensemble du Languedoc qui est touché par ces conflits. Voilà, rien en Bretagne, rien en région parisienne, rien en Normandie, alors qu'au XVIe siècle, que ce soit par des engagements ultra-catholiques ou des engagements protestants, finalement, les guerres civiles, les guerres de religion, avaient touché l'ensemble du royaume. Et enfin, dernier élément de distinction, les guerres des années 1620 ne sont pas des guerres civiles. Au XVIe siècle, pendant la période des guerres de religion, c'était l'objet de ma thèse sur la région toulousaine, nous sommes dans un contexte de guerre civile. C'est le voisin contre le voisin. C'est le Toulousain paniqué par le grand méchant montalbanais, ou inversement. Et les moyens de la guerre sont des moyens de la guerre qu'on pourrait dire autochtones, en fait. Il n'y a quasiment pas d'importation de guerre extérieure, pas d'armée royale dans nos régions, pas de grosse armée protestante, quelques passages. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas vraiment la guerre, mais on se fait la guerre avec ses propres ressources, contre son frère, contre son client, contre son ami, contre son voisin. Les guerres de Louis XIII, c'est d'abord la révolte d'un parti bien implanté militairement dans le sud, et la guerre va être importée par les armées royales qui vont arriver du nord, qui vont ensuite se recomposer en se recrutant localement. Mais c'est une guerre importée. En fait, c'est une guerre d'un parti en révolte contre le souverain. Et donc, on n'est plus du tout dans un contexte de guerre civile. Alors, pour nos ancêtres, les désastres sont les mêmes. Quand on assiège une ville, on fait un dégât, que ce soit le voisin ou que ce soit le roi. Mais dans l'esprit, dans la façon dont les choses sont organisées, le rapport au conflit n'est pas le même. On est dans une guerre qui est une guerre de révolte d'une partie de la société contre l'autorité du roi, et le roi qui vient rétablir l'ordre, en fait, l'ordre royal et l'ordre monarchique. Et donc, s'il y a guerre, indéniablement, c'est en raison d'un conflit entre le roi et ses sujets protestants. La guerre s'est portée dans l'ouest, dans le midi. C'est parce que les protestants étaient plus puissants à cet endroit-là et que le roi est venu porter la guerre dans les foyers protestants. Le lien dans cette guerre, je pense que l'exposé précédent, et c'est vraiment là que toute la cohérence des choix des exposés de ce matin, vous avez vu un petit peu dans quelle ambiance de militantisme on se trouve à ce moment-là. On ne peut pas comprendre pourquoi Louis XIII a quitté le Louvre ou Saint-Germain avec ses troupes pour descendre dans le Midi si on n'a pas en tête les imaginaires de croisades qui vous ont été exposés. On ne peut pas comprendre comment à Montauban on a pu résister quand même jusqu'à l'ultime limite, et encore plus à La Rochelle en 1628, si il n'y a pas une motivation protestante extrêmement forte à souffrir pour résister. Et je pense que les propos précédents vous ont bien montré que tout cela s'inscrit dans un imaginaire, dans un engagement politique extrêmement important qui explique en fait ce qui se passe localement. Et même si c'est flou dans la tête de nos ancêtres, la question de Jean-Pierre Amalric et la réponse d'Yves Cromanacker vont dans ce sens, mais il y a quand même une conscience qu'on a un enjeu de conflit confessionnel à l'échelle européenne qui se joue en partie en France. Voilà donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est venir dans le détail un petit peu qu'est-ce qui structure dans ce rapport-là, dans cette singularité militaire de ce conflit entre le roi et ses sujets huguenots, comment les choses sont organisées. Premier point, je vais revenir sur l'édit de Nantes. Je veux revenir sur l'édit de Nantes parce que l'édit de Nantes conditionne en réalité ce qui se passe dans nos contrées dans ces années 1620. L'édit de Nantes, c'est le texte qui est d'abord un objet d'une négociation et d'un compromis. Jane Garrison avait intitulé un de ses livres Guerre et compromis. Voilà, l'idée est là. L'édit de Nantes, et le préambule ne s'en cache pas, il montre combien ce texte n'a pas une ambition de liberté religieuse, contrairement à ce qu'on peut lire. L'édit de Nantes n'est pas un édit de liberté, de tolérance, au sens moderne du terme. L'édit de Nantes est un édit qui vise à assurer la paix civile en organisant la coexistence entre deux communautés. Et pour organiser cette coexistence, on dit le droit. Qui a droit à ceci? Qui a droit à cela? Et cet édit de Nantes, il s'est construit sur des doléances réciproques, doléances de catholiques, doléances de protestants, et il s'est donc construit dans un rapport de force. L'édit de Nantes est un texte signé par le roi, avec les formules rituelles, c'est une lettre patente, on le voit, vous l'avez, si vous arrivez difficilement à lire, c'est une lettre écrite par le roi à ses sujets, et qui conclut « car tel est mon plaisir ». Donc c'est une loi qui, comme dans toutes les lois du royaume, émane de la seule autorité du roi, qui est le seul pouvoir législatif. Il n'empêche, l'édit de Nantes, c'est une négociation qui a duré 5 ou 6 ans et qui a été un jeu d'aller-retour entre représentants du parti protestant, représentants du roi. D'une certaine manière, l'édit de Nantes est un édit qui a été imposé au prince. Ce qui, dans une monarchie française qui est en train de s'orienter vers une monarchie autoritaire et absolue, montre d'une part que absolu ne veut pas dire totalitaire, mais montre quand même que là, il y a une fêlure dans l'autorité du roi et que l'édit de Nantes porte cette fêlure dès son origine. Et donc le regard de la monarchie sur ce texte ne peut être totalement évacué de cela. L'édit de Nantes, c'est un édit qui relève d'un véritable empirisme législatif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le 8e édit de pacification. Avant lui, il y en a eu 7 qui ont échoué, mais les 7 échecs précédents, à faire coexister catholiques et protestants, et les 8 guerres de religion, ont appris à faire travailler les négociateurs sur un texte plus précis, plus concret, et qui puisse fonctionner. L'édit de Nantes, il faut vraiment le comprendre comme une accumulation. Il est l'héritage des échecs de pacification de toutes les guerres de religion. Vous voyez, là aussi, il faut le porter, cet héritage. Voilà. Lui, il réussit parce que pendant 36 ans, on n'a pas réussi. Et donc, l'édit de Nantes est un édit extrêmement long, extrêmement complexe. Et dans ce contexte militaire-là, en termes de textes négociés, vous avez juste ici... Alors, il faut partir du bas pour aller vers le haut. Hein, mais je voulais simplement vous montrer à quel point c'est un élément de négociation. Hein, vous avez ici l'axe chronologique. En fait, le début de l'édit de Nantes commence dans la partie droite du tableau, c'est les assemblées protestantes. Vous voyez, les protestants sont assemblés en assemblée politique de manière continue, de 93 à 98. Et ces assemblées vont envoyer au roi à plusieurs reprises des doléances. Et la première doléance demandant un nouvel édit au roi est de 1594. Et la première instruction au roi pour répondre à cette doléance est de 1596. Vous voyez, c'est faut du temps. Le roi résiste. Le roi ne veut pas l'accorder, cet édit, au départ. Il dit, il y a des édits précédents, on rétablit des édits précédents. Et à partir de là, on a un jeu d'instruction royale, de doléances, hein, un véritable jeu de navette qui finit par arriver au texte royal d'avril 1598, qui est l'édit de Nantes. Pendant cette négociation, le roi subit des pressions. Pressions militaires des villes catholiques. Parce que je vous rappelle que là, dans cette chronologie-là, Henri IV, il est en guerre contre les villes ligueuses qui s'opposent à son autorité. Lyon se soumet en 1594. Toulouse se soumet en 1596. Lyon, comme Toulouse, ville ultra-catholique, refuse que le culte protestant revienne dans leur ville. Alors que les protestants exigent que le culte protestant soit partout dans le royaume. Vous voyez la pression qu'a le souverain. Le principal soutien militaire du roi, à ce moment-là, c'est le parti protestant. Les armées protestantes le soutiennent. Et les protestants, en 1597, et c'est pour ça que ça s'accélère là, ils disent au roi, la ville d'Amiens vient d'être prise par le roi d'Espagne, et ils disent au roi, ben, tant qu'on n'a pas le nouvel édit, on ne vous aide pas. Et en fait, Henri IV est allé reprendre la ville d'Amiens sans les soldats protestants, qui est quand même le gros de son armée. Vous voyez un petit peu ce sentiment d'urgence, de pression militaire, ce contexte de négociation de l'édit de Nantes, et pour finir, si cet édit est signé à Nantes, en fait, ça n'a rien à voir avec les protestants, c'est parce que Henri IV est à Nantes, parce qu'à Nantes, il reçoit la soumission du dernier chef ligueur ultra-catholique, qui est le duc de Mercœur. La Bretagne est la dernière province à se soumettre au roi. Et donc Nantes, c'est extrêmement symbolique. Fin de la Ligue, nouvel édit de coexistence entre catholiques et protestants, à l'issue d'une pression militaire extrêmement forte et d'une négociation très serrée entre le roi et ses sujets. L'édit de Nantes est un édit de la douleur. C'est un édit qui s'impose au roi, que le roi ne veut pas, qu'il négocie avec une pression militaire de tous les côtés, et qui finit malgré tout par, en prenant l'héritage des édits précédents, à réussir et à s'imposer. Alors, l'édit de Nantes, après un texte négocié, son contenu. Qu'est-ce qu'il contient ? L'édit de Nantes crée un groupe d'individus privilégiés. Janine Garrison parlait d'un milieu super privilégié. En fait, l'édit de Nantes ne donne pas de liberté religieuse. Il crée un groupe de privilégiés supplémentaires dans le royaume. Ce n'est pas quelque chose de courant, mais ce n'est pas quelque chose d'incohérent. Les Montalbanais avaient des droits. Ils avaient des privilèges. Ils payaient un certain type d'impôts et pas d'autres. À Toulouse, on ne payait pas la taille. À Lyon non plus. À Toulouse comme à Lyon comme à Bordeaux, on avait ses propres milices. On se défendait soi-même. Donc on était exempt de garnison. En fait, la France d'Ancien Régime est une France qui accumule les droits particuliers. Chaque province, chaque village, en fait, a son propre droit. L'idée du droit commun n'existe pas. On a chacun son droit, son privilège. Et donc, que fait l'édit de Nantes ? Il crée un nouveau droit spécifique. Mais là où est l'originalité, c'est qu'on crée un droit spécifique dans une dimension religieuse. Ça, c'est nouveau. Pour la première fois, le groupe est identifié parce qu'il est protestant. Et l'originalité, et ça, Yves Krummenacker l'a dit, c'est le seul cas en Europe, ce droit autorise une communauté confessionnelle sous un même souverain. Ça, c'est déjà bien connu. Hein, c'est le seul cas. Jusque-là, on l'a vu tout à l'heure, c'est un roi, une religion. Et donc, après, vous déménagez si vous n'êtes pas d'accord avec la religion du prince. En France, on peut avoir deux confessions sous le même roi. Mais attention, hein, si vous voulez vous convertir au bouddhisme, voire même au luthéranisme, ce n'est pas possible. Hein, c'est un droit spécifique pour un groupe qui représente l'Église réformée de France qu'il a obtenu par négociation, et c'est ce qu'on vient de voir. Vous voyez, c'est très particulier. Donc on est dans un objet là qui ne vise pas... c'est une étape vers la liberté religieuse et vers la tolérance, indéniablement. Mais ce n'est pas l'objet du texte. L'objet du texte, c'est au nom de la paix civile, j'ai négocié avec mes sujets protestants et je leur donne ce droit. Alors, l'édit, on peut le résumer autour de quatre garanties. Quatre garanties. Première garantie donnée aux protestants, c'est des garanties religieuses. Le droit de culte, ce n'est pas une liberté de culte. Les protestants ont le droit d'avoir un temple là où il était au moment de la signature de l'édit. Donc Saint-Antonin, il n'y a pas de problème, puisque le temple est bien plus ancien. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de culte, c'est interdit. Les pasteurs ont le droit de citer, ils ont le droit d'avoir un impôt pour être financé, etc. Donc voilà, il y a des garanties religieuses qui donnent l'autorisation de pratiquer son culte dans un endroit précis. Deuxième garantie, c'est les garanties civiles. Accès à toutes les charges et à tous les métiers. Vous allez me dire, c'est normal, c'est des sujets du roi de France. Ouais, il y a un certain nombre de métiers où il faut prêter des serments, et des serments sur des évangiles en latin, par exemple. Voyez. Est-ce qu'un protestant va prêter serment sur un évangile en latin pour entrer dans telle corporation, pour devenir juge de tel parlement, de telle cour de justice? Voilà, ça c'est réglé par l'édit de Nantes, qui dispense d'un certain nombre de serments pour un certain nombre de métiers. Donc ça va quand même assez dans le détail, hein, pour savoir quel métier est autorisé ou pas. Quatrième type de garantie, garantie judiciaire. Les protestants, quand ils ont un procès contre des protestants, la question n'est pas problématique. Mais quand on a un procès entre un catholique et un protestant, on crée une cour de justice, qu'on dit mi-partie, moitié catholique, moitié protestante, pour juger cette affaire. Je ne vais pas plus loin. Quatrième garantie, garantie politique et militaire. Les protestants obtiennent le droit de posséder une représentation politique, l'Assemblée générale, j'y reviendrai dans le courant de l'exposé, et des garanties militaires, un certain nombre de places fortes. J'y reviendrai aussi. Garantie religieuse, garantie civile, garantie judiciaire, garantie militaire, tout ça c'est inscrit dans le droit. Et tout ça, ça donne un statut à un groupe privilégié, particulier, que sont les protestants. Les protestants, à partir de là, ne sont plus des sujets du roi comme les autres. Il faut bien avoir ça en tête. Et dernier point sur cette question de l'édit de Nantes, et ça, je pense que c'est vraiment fondamental pour comprendre, aussi pour relativiser ce qui se passe dans ces conflits et ces massacres, l'édit de Nantes instaure la coexistence. C'est tout le paradoxe des guerres de religion. Les guerres de religion en France, au XVIe comme au XVIIe siècle, ce sont des temps d'explosion de massacres et de violences. La Saint-Barthélemy, on vient de fêter les 400, enfin fêter, on vient de commémorer le 450e anniversaire, c'est pas rien. Et le conflit religieux est un conflit qui débouche très régulièrement sur des pulsions de massacre. Voilà, une guerre, ça c'est un élément qui est... Mais en même temps, les guerres de religion en France ont aussi été l'école de l'acceptation de l'autre en religion, de celui qui ne croit pas comme moi, de manière à pouvoir arriver à coexister. Et c'est tout le paradoxe de ces conflits religieux. À la fois, on éradique, à la fois on fait la guerre contre celui qui est dissemblable, qui est le frère, le voisin, le cousin, le membre de la même famille. Et à la fois, progressivement, de génération en génération, on commence à apprendre à vivre avec. Vous voyez ? Et donc ça paraît très contradictoire, et pourtant c'est ce que vivent ces guerres de religion. Et c'est ce qu'on vit à Saint-Antonin ou Nègrepelisse dans les années 1620. On assume des massacres de garnisons, de protestants, pour des questions militaires ou des questions religieuses, ça c'est discutable. Et en même temps, quand le roi est parti, Saint-Antonin n'est pas redevenu une ville uniformément protestante. Les catholiques sont revenus. Ou les protestants sont revenus. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On apprend les deux. Et donc il faut bien comprendre que ces conflits religieux, ils mettent en jeu deux types d'opposition. Il y a l'opposition des églises. L'opposition des églises qui est doctrinale et théologique, qui est véhiculée par les clercs, qui est véhiculée et qui ensuite peut justifier des violences. Il a craché sur une hostie, c'est un blasphème, il faut le massacrer. Voilà. Cette statue représente juste du plâtre et non pas la Vierge Marie, on peut la détruire. Voilà. Et là, il y a une dimension théologique et doctrinale à la violence. Mais, à côté de cela, il y a aussi la réalité d'une vie quotidienne. À côté de ces oppositions d'autorité, à l'échelle des individus, la coexistence doit s'imposer pour des nécessités locales. C'est ce que les historiens appellent une coexistence pratique. Et vraiment, je voudrais vraiment que vous le reteniez de cette matinée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se tue, ce n'est pas parce qu'on commémore un siège qui a été sanglant que le lendemain, les types ne vont pas revivre ensemble. Il y a une coexistence pratique. C'est un historien anglo-saxon, Bob Scribner, qui l'a inventé. En France, c'est l'historien Thierry Van Eckfelen qui a travaillé là-dessus. Même en plein cœur des guerres de religion, des populations trouvent le moyen de discuter, de négocier, de s'organiser pour éviter leur propre destruction, pour réussir à survivre, pour réussir à maintenir le lieu de vie, son commerce, son champ, sa maison. L'idée est de comprendre qu'en fait, autour des violences religieuses, autour de ces affrontements, s'opèrent ce qu'on appelle des véritables transactions sociales. On transige sur la doctrine et sur le théologique. À des moments, on ne transige pas, on se tue. Mais le lendemain, on transige. Et donc, on fait une transaction avec l'autre parce qu'il faut bien vivre avec l'autre. On se met d'accord sur un modus vivendi minimal et qui, ensuite, va pacifier le reste des rapports sociaux. En fait, parler de coexistence, c'est admettre que les protagonistes ont conscience de frontières qui séparent deux communautés confessionnelles, des frontières qui sont extrêmement bien définies. On construit une frontière religieuse, on construit une distinction sociale. Je ne suis pas comme le protestant, je ne suis pas comme le catholique, je sais ce qui me différencie. Mais je sais à quel moment je franchis cette frontière. Et c'est un historien américain, Case Luria, qui a travaillé sur ces frontières du sacré. Et il définit en fait le quotidien de nos ancêtres, ces trois frontières. Le quotidien de nos ancêtres de religions différentes, de confessions différentes. Ces trois frontières. C'est d'abord une frontière qui s'estompe, qui s'efface. Par le lien commercial et familial. Un contrat entre marchands, un enterrement dans une famille bigarrée de deux confessions, des mariages. Et là, la frontière, quand on regarde les textes, on ne la voit pas. Mais les gens ont conscience. Parce que si c'est un mariage, on passe devant le prêtre ou on passe devant le pasteur. Voyez, et ça, cette frontière-là, on la franchit et on sait qu'on peut la franchir. Au moins pour notre période. Attention, plus tard, sous Louis XIV, ça sera plus difficile. Ensuite, on a une frontière, la deuxième frontière vécue, c'est une frontière nette qui permet d'identifier les éléments symboliques des deux confessions. On a une frontière de l'espace, mais de l'espace sacré. Ce n'est pas la maison qu'on va partager, ce n'est pas le quartier. On va partager les lieux de pratique religieuse. Le temple et l'église, ça c'est évident. Mais le cimetière, où est-ce qu'on enterre les protestants? On va sûrement pas les mettre en terre consacrée quand on est un catholique. Et le protestant, il n'y a aucune envie d'aller... Enfin bref, mais pourtant, dans cette terre-là, il y a les ancêtres qui sont enterrés. Donc où est-ce qu'on met le fils d'une famille protestante alors qu'il veut être enterré dans le même secteur qu'à côté de l'église, que ses grands-parents? Bon, bref, ça c'est des détails extrêmement procéduriers. Mais... là, cette frontière-là, elle est infranchissable, en fait. Mais il faut qu'elle soit infranchissable. Et pareil pour les parcours des processions. Le jour du Saint-Sacrement, est-ce que la procession passe devant le temple? Peut-être pas. Voyez, peut-être qu'on fait un parcours un peu plus intelligent. Le jour des fêtes chômées catholiques où les protestants n'ouvrent pas leurs boutiques, pour autant faut-il aller les provoquer devant chez eux. Voyez, ça, c'est des frontières inamovibles. Mais ces frontières, elles sont fixées par le droit. Et c'est elles qui permettent la coexistence. Et ensuite, ce qu'on repère, c'est que finalement, au début du XVIIe siècle, jusqu'aux années 1630, frontières estompées du lien familial et commercial et frontières nettes des espaces religieux, finalement, permettent une coexistence relativement apaisée, malgré les guerres, au sein des communautés. Et on observe un basculement à partir des années 1630-1640, et puis ça va s'amplifier avec Louis XIV, où on va avoir une frontière qui exclut de la vie sociale, une troisième ligne de frontière qui exclut de la vie sociale, qui exclut un certain nombre de fonctions voulues par le pouvoir central, qui va conduire progressivement à la marginalisation des protestants. Mais pour la période qui nous intéresse, pour ce premier tiers du XVIIe siècle, ce n'est pas encore le cas. Et donc, voilà, n'oublions pas qu'à Nègrepelisse ou à Saint-Antonin, malgré les guerres, malgré les affrontements, on est dans cette logique-là de la coexistence à l'échelle locale. Et elle, on n'est pas dans une société totalement clivée. Et c'est en ce sens qu'on n'est plus au XVIe siècle non plus. On sait que le droit donne des libertés, donne un certain nombre de garanties. dans cette coexistence et que cette coexistence, elle existe, avec ses limites et avec ses dangers. Venons-en maintenant au deuxième temps de cet exposé sur le rapport de force entre le roi et les protestants. Et premier temps, d'abord, le parti protestant. Qu'est-ce que le parti protestant dans ce premier tiers du XVIIe siècle? Ou comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, les protestants en France se sont organisés en structure de défense dès les années 1560. Et là aussi, ça a d'abord été extrêmement pragmatique. Il faut imaginer qu'en 1560, quand le protestantisme apparaît, le protestantisme est illégal. La première autorisation de lieu de culte, c'est janvier 1562. Donc avant 1562, le protestantisme est illégal. Pour autant, dès 1560-61, on a à peu près en France entre 5 et 8% de la société qui s'est convertie. Et dans des villes comme Montauban, comme Castres, on est aux trois quarts de la société urbaine qui est protestante. Et donc quand on est aussi nombreux, même si on est clandestin, on va aller dans la rue, on va occuper les églises, on va occuper l'espace public pour pratiquer son culte. Or, pratiquer un culte interdit en public, c'est prendre un risque d'être pourchassé par les catholiques qui considèrent que c'est un sacrilège, voire même d'être pourchassé par les agents du roi. Et donc très vite, ces assemblées religieuses protestantes, elles vont prendre l'habitude d'avoir recours à de la noblesse locale, à ceux qui savent se défendre en fait, les nobles locaux qui vont venir en armes lors de ces assemblées, et qui vont commencer à s'organiser. Et donc on a des micro-organisations militaires. Et quand les guerres de religion commencent en 1562, ces micro-organisations militaires, elles vont montrer qu'elles sont bien là, c'est-à-dire que le chef protestant qui, à ce moment-là, est Louis de Condé, va appeler tous ses amis protestants à prendre les armes pour convaincre, pour chasser les Guises de la cour et convaincre le roi qu'il faut rétablir, il faut établir un culte protestant fiable, etc. Et bien les protestants vont prendre les armes et ils vont se retrouver très nombreux. Et le lieutenant du roi en Guyenne, qui est Blaise de Montluc à ce moment-là, qui est un catholique intransigeant, il ne sait pas où donner de la tête. Il a écrit ses mémoires à ce moment-là et il dit « il y a des protestants partout, j'ai l'impression qu'ils en sortent de partout ». En fait, ils ne sont pas partout. Sauf qu'ils s'étaient bien organisés. Et donc on a un parti qui se structure à ce moment-là, dès 1562, autour de ces élites nobilières. Or, ces élites nobilières, ils savent se battre, mais un noble, ça n'a jamais levé un impôt. Ça n'a jamais rassemblé des magasins pour nourrir ses soldats, pour nourrir ses chevaux. Ça n'a jamais fait de la logistique de guerre. Qui c'est qui fait cette logistique? Ce sont les villes, ce sont les états provinciaux, ce sont les institutions civiles. Et donc, on a un partenariat qui se noue très vite entre villes protestantes, chefs de guerre protestants, qui permet d'alimenter cette guerre. Et en 1572, avec la Saint-Barthélemy, qu'est-ce que c'est? C'est ce massacre parisien. Mais qui y a à Paris qui est massacré? Il y a des parisiens, protestants parisiens sont massacrés. Mais en fait, s'il y a des protestants à Paris, c'est parce que c'est le mariage d'Henri de Navarre, avec la fameuse reine Margot. Or, un mariage, qui est-ce qu'on invite à son mariage? On invite ses copains. C'est qui les copains d'Henri de Navarre? C'est toute la fine fleur de la noblesse protestante. Donc, parmi les gens qui sont massacrés à Paris en 1572, il y a toute l'élite aristocratique protestante, presque toute. Ça veut dire que, après le massacre de la Saint-Barthélemy, le parti va se recomposer. Mais grosso modo, on l'a un peu décapité quand même, ce parti, dans sa partie aristocratique. Et donc ce sont les villes et les États qui vont progressivement s'organiser. Ce sont à l'échelle locale les villes, et là-dessus les villes de Nîmes, de Millau, de Montauban, de Castres, de Montpellier, vont de fait reprendre le relais de la guerre et structurer un parti beaucoup plus officiel, beaucoup plus marqué. Et c'est ainsi qu'entre 1572 et 1581, ce parti protestant qui existe déjà, mais très, très aristocratique, va se structurer autour d'une instance, prise en charge par les villes, et de fait beaucoup plus normée. Et on peut dire que c'est achevé en 1581. C'est l'Assemblée générale de Montauban en 1581 adopte un règlement qui va devenir et qui va durer jusqu'en 1629, enfin 1522. Ça va bouger à la marge, mais grosso modo, l'esprit du parti est posé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce parti? On va trouver une structure pyramidale. À la base, on a les villes, toutes les villes protestantes, avec des consuls et des municipalités passées à la réforme, qui vont députer à un échelon intermédiaire, à un conseil provincial, des représentants. Et donc les provinces vont se doter de structures administratives et politiques pour gérer la guerre. Ce n'est pas des structures ecclésiastiques, c'est pour gérer la guerre et gérer le politique. Et chaque province va déléguer des députés à une assemblée générale qui représente tous les protestants de France. Cette structure, à trois niveaux, elle va être couplée, et ça c'est l'origine du parti qui est quand même nobiliaire, elle va être couplée avec des représentants des soldats. À l'échelle générale, il va y avoir un protecteur. Et en 1581, le protecteur, c'est Henri de Navarre. À l'échelle provinciale, on va avoir des lieutenants généraux qui vont représenter les intérêts du parti. Et à l'échelle des villes, on va avoir des gouverneurs ou des capitaines de ville, mais qui vont travailler en collaboration avec les assemblées. Chaque niveau, voilà. Alors, on a longtemps parlé, et ça a été sur la thèse de Janine Garrison sur les protestants du Midi, sur cette idée de province, elle appelait ça les provinces unies du Midi, à la suite de Jean Delumeau d'ailleurs, qui est le premier à l'avoir évoqué. Voilà, il faut pas se leurrer, hein, les protestants n'ont jamais eu d'ambition sécessionniste. Ils ont eu une ambition administrative, mais les protestants savent organiser les choses pour le coup. Ils ont eu une ambition administrative. En fait, cette structure, c'est ce sur quoi moi j'ai travaillé sur ma thèse et au-delà, elle va doubler des structures qui existent, que sont les États provinciaux. En fait, les villes vont devenir protestantes, les États provinciaux vont se scinder entre États provinciaux protestants et États provinciaux catholiques, et la vraie nouveauté, c'est l'Assemblée générale, effectivement. Mais en aucun cas, on a l'idée d'une république protestante autonome en France. Hein, ils sont vraiment sujets du roi, même après la Saint-Barthélemy. Et on a juste affaire à une structure partisane qui se met en place. Et ainsi, on a le parti protestant, et c'est cette structure partisane. Alors ici, vous avez une... Voilà, là, c'est les découpages provinciaux et ecclésiastiques. Donc, il n'y a pas de cartographie. Il faudrait que... C'est une des choses que je veux faire. Il n'y a pas de cartographie de ce découpage partisan aussi parce qu'il est mouvant, mais cette structure partisane existe. Alors, l'édit de Nantes, là-dedans, eh bien, il joue un rôle particulier parce qu'en fait, les protestants vont négocier avec le roi parce qu'ils ont une assemblée générale et parce qu'il y a ce lien. Donc, ils doivent leur privilège à cette structure politique. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, l'édit de Nantes autorise la tenue régulière d'une assemblée générale protestante, officiellement, c'est pour déléguer des représentants permanents auprès du roi pour défendre les intérêts du parti. Mais vous imaginez bien que quand vous mettez 250 protestants dans une même salle pour déléguer deux bonhommes qui vont aller voir le roi, ces 250 protestants, ils vont parler d'autre chose que de la seule délégation du roi. En fait, vous donnez une existence politique à ce parti. Et cette existence politique, ils s'en sont saisis. Vous avez ici la chronologie des assemblées politiques au début du XVIIe siècle. Il y en a tous les 2-3 ans. Tous les 2-3 ans, le roi autorise la tenue d'une assemblée générale du parti protestant. Et là, vous avez une vraie réalité politique de ce que sont les protestants français. Sachant que pour qu'il y ait ces assemblées, avant, il y a des types qui les ont élus depuis les assemblées provinciales. Et des assemblées provinciales, il y a des gens qui ont été nommés depuis les villes. Hein, je vous rappelle quand même que les états généraux en France, qu'on pourrait comparer à cela, qui représentent tout le royaume, on a une session en 1588, une session en 1614, et puis une session en 1789. D'accord ? Alors, donc, vous voyez là, quand même ce que ça veut dire d'un point de vue politique, dans une monarchie qui est en train de se passer d'instances représentatives qui étaient beaucoup plus importantes au XVIe siècle. On passe d'une monarchie représentative à une monarchie plus autoritaire. Les protestants, eux, tous les 3 ans, ils se réunissent, ils envoient des représentants au roi et ils disent ce en quoi ils sont d'accord ou pas d'accord. Et ils envoient des doléances. Donc, voilà, on a là une identité politique qui est relativement importante. Troisième, donc, on a vu le parti protestant. Deuxième aspect dans ce rapport de force, la puissance militaire du parti protestant. L'édit de Nantes a laissé en armes le parti protestant tel qu'il était au cours de l'été 1597. Ça a été, c'est pas l'objet de cet exposé, mais c'est une négociation qui a été extrêmement serrée. Mais les protestants ont obtenu un statu quo militaire à l'été 1597. C'est-à-dire que là où les protestants possédaient des canons, des soldats, des garnisons à l'été 1597, ils peuvent les conserver définitivement pour 8 ans. Après l'édit de Nantes. Ils ont une concession de 8 ans. Donc c'est quelque chose d'énorme, parce qu'en fait, c'est un statu quo laissé à un parti qui est en guerre. En 1597, on est à la fin de la 8e guerre de religion, le parti, il est armé jusqu'aux dents. Enfin, c'est pas des miettes qu'on laisse aux protestants, on les laisse en armes dans l'intégralité de leur potentiel militaire. C'est une concession considérable. Henri IV accepte que les protestants conservent environ 400 à 450 places fortes. à l'intérieur du royaume. C'est une exigence des protestants. Alors, officiellement, c'est une exigence pour assurer la paix. C'est quelque chose ça aussi qui s'est... Les premières places de sûreté, c'est l'édit de 1570. Vous voyez, au début, il y en avait 4, puis il y en a eu 8, puis il y en a eu 12. Puis là, il y en a 450. L'idée chez les protestants, c'est de dire, comme on est, les catholiques sont d'affreux fanatiques, il faut qu'on ait les moyens de se défendre si jamais ils viennent nous égorger. Souvenez-vous de la Saint-Barthélemy. Okay. Quand on prend ça au premier abord, c'est bien. Finalement, ils ont raison. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les protestants, par les places de sûreté, par les places fortes, mettent en question la capacité du roi à protéger ses propres sujets. Les places de sûreté, c'est un défi politique à la capacité du roi d'arbitrer pour la paix. Sire, donnez-nous des places fortes parce que nous ne vous faisons pas confiance. C'est un défi, hein. C'est énorme comme concession. Et je peux vous assurer qu'Henri IV, il a dû passer quelques nuits blanches, adoucies par ses multiples compagnes, mais il a quand même dû passer quelques nuits blanches pour accepter cela. Et au-delà de ça, ces places fortes, c'est aussi un moyen de pression sur la cour. Parce que s'ils prennent les armes, ils sont menaçants. Mais ce moyen de pression, c'est une réalité, mais en fait, ça, pour moi, c'est moins important. Parce qu'en fait, dans la France d'Ancien Régime, une ville comme Montauban, elle a ses canons et elle a sa milice. Pareil à Toulouse, pareil à Bourges, pareil à Paris au Havre. En fait, l'idée d'une ville qui est capable de s'autodéfendre, c'est un héritage médiéval. Finalement, on donne aux protestants le droit de s'autodéfendre. Bon, voilà. Non, c'est surtout l'idée qu'on vous laisse un arme pour vous assurer votre sécurité, parce que moi, le roi, vous n'avez pas confiance en moi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on met un délai, c'est une temporisation. L'édit de Nantes donne pour 8 ans ce droit, parce qu'en disant, voilà, pendant 8 ans, vous allez vous calmer, tout le monde va se calmer, et après, on revient dans l'ordre. Alors, le fait est que ça va être prolongé jusqu'en 1625, hein, donc les 8 ans vont durer beaucoup plus. Mais voilà quelle est l'idée. Du coup, les places fortes, ça donne ce que vous avez derrière moi. Sur la carte de droite, la petite, vous avez toutes les places fortes que j'ai pu inventorier. Alors, c'est compliqué hein, d'inventorier des places fortes, mais il y a des listes qui sont générées. Des listes, j'ai une liste en 1586, j'ai une liste en 1620, il y a des états de places fortes. Bref, il y a toute une série d'inventaires. Et voilà, je suis arrivé à peu près à cette carte sur la droite, qui représente à peu près allez, la plupart des villes. Il n'y aura probablement pas tous les petits châteaux, parce que ça, il les compte pas, mais la plupart des sites fortifiés tenus par les protestants. Trois catégories dans ces places fortes. Dans ces places fortes, vous avez une centaine de places, sont celles qui sont à gauche. La grande carte, ce sont des places dont le roi va payer la garnison et le gouverneur. En fait, c'est des places où le roi payait traditionnellement une garnison et un gouverneur. Sauf qu'il s'engage à ce qu'il soit protestant. C'est ça, à strictement parler, les places de sûreté. Il y en a une centaine. Vous voyez, un quart de ces places est financé par le roi. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les très grosses villes protestantes. Montauban, Nîmes, La Rochelle. Alors eux, ils veulent rester en armes, mais par leur privilège, ils refusent que le roi envoie une garnison. Hein. Ça, c'est une évidence. Jamais. Voilà. Mais eux, ils ont les moyens. Et puis, la troisième catégorie, c'est toutes les autres. Toutes les villes qui ne sont pas financées par le roi et qui vont financer elles-mêmes leur propre défense, qui vont financer type Saint-Antonin et Nègrepelisse, qui ne sont pas des places de sûreté avec garnison, mais où les consuls font le choix. Alors du coup, ça veut dire quoi? Qu'après 1598, probablement qu'on n'a plus de dépenses financières à Saint-Antonin là-dessus, mais on a cette idée qu'on a le droit de prendre les armes. C'est pour ça qu'ils vont le prendre en 1620. Alors, le profil géographique de cette implantation du protestantisme, elle est absolument sans surprise. Hein. Les places fortes protestantes sont en accord avec l'occupation du protestantisme dans le royaume de France. Hein. Voilà, le foyer important part de l'ouest français, descend la vallée de la Garonne, traverse le Haut-Languedoc par le Lauragais, arrive sur les rives méditerranéennes et remonte la vallée du Rhône jusqu'à Montélimar, quoi, ou Valence, quoi, voilà, à peu près. Donc là, on a ce fameux croissant et puis quelques îlots un peu partout, mais bon, des places, il y en a quand même un peu partout, malgré tout. Mais on a cette concentration. Vous voyez l'importance des cours d'eau hein, dans cette géographie, le réseau de la Garonne, le réseau de la Dordogne, le réseau de la Loire, même là où il y en a moins, et évidemment le réseau du Rhône. Et tout cela définit les territoires protestants. Et de manière pas du tout surprenante, c'est là que, dans les années 1620, va se dérouler la guerre. Hein, elle ne va pas aller là où il n'y a pas de place forte protestante. Alors, pour finir, sur ce grand 2, les premières tensions, finalement, avant que Louis XIII se décide de partir en guerre en 1620 contre les protestants, il y a une gradation progressive de cette conflictualité. La première de ces tensions, elle fait suite à l'assassinat d'Henri IV en 1610. L'assassinat d'Henri IV, les protestants y sont pour rien. A priori, il n'y avait pas de complot, hein, Ravaillac a agi tout seul. Mais on observe dans un certain nombre de villes protestantes, on observe une montée des tensions, hein, dans la ville de Castres notamment. On va fermer les portes, on va chasser les catholiques. À Pamiers, on fait la même chose. Et on sent bien, en 1610, que les vieux réflexes d'autodéfense des protestants sont bien là. Et le pouvoir politique en prend acte. Et il y a un livre écrit par Michel Cassan, historien du XVIe siècle, qui s'appelle « La grande peur de 1610 ». Et il a traqué ce mouvement de frayeur. Et on voit qu'il est quand même très fort chez les protestants. Et d'autant plus qu'à la suite de la mort d'Henri IV, la politique royale prend une inflexion pro-catholique. C'est-à-dire que, et là, on rejoint les propos d'Yves Krummenacker. C'est-à-dire que Marie de Médicis, la deuxième épouse d'Henri IV, mère de Louis XIII, devient régente. Ensuite, lui succède son fils, à partir de 1614, devient roi, puis prend les rênes du pouvoir en 1617. Or, la politique de la régente et de Louis XIII, c'est d'abord l'abandon des alliances avec les princes protestants du Saint-Empire. C'est les fameuses alliances espagnoles, hein, les mariages dont a parlé Yves Krummenacker, donc de ce roi de France qui finalement soutient les protestants et puis là se marie avec des Espagnols. C'est les premières limitations à l'application de l'édit de Nantes. On commence à trouver que l'édit de Nantes, on le confirme, hein, mais quand même, il y a certaines limitations. Et surtout, la monarchie encourage l'installation de la réforme catholique. Et c'est là où je nuancerai un petit peu les propos d'Yves Krummenacker sur le fait que dans les campagnes, on n'a pas forcément conscience de ces enjeux-là, notamment sur l'installation des jésuites. Il y a, entre 1614 et 1618, un soutien politique à l'installation de couvents jésuites dans les villes tenues militairement par les protestants. Ça donne lieu à des bras de fer, à des procès, à des plaintes, à des doléances, et le roi, l'autorité centrale, soutient systématiquement les jésuites, alors que les protestants estiment qu'en étant place de sûreté, ils peuvent les mettre dehors. Mais non, parce que légalement, ils n'ont pas le droit. Et donc, il y a toute une série de recours. Et donc là, il y a une bascule qui s'opère et qui fait peur. Deuxième signe de tension, c'est la participation de certains protestants aux révoltes aristocratiques contre la régence et Louis XIII. Et le principal meneur, c'est Henri de Condé. Alors Henri de Condé, son père était protestant, mais lui est catholique, hein, donc ce n'est pas une révolte à motif religieux, c'est un mécontentement nobiliaire, parce qu'Henri de Condé est le premier prince du sang, qui voudrait être régent à la place de la régence, qu'il y a des conflits de pouvoir politique, hein, bêtement. Mais il va se révolter contre la régence entre 1614 et 1616, et contre Louis XIII entre 1614 et 1616, et entre 1615 et 1616, il va recevoir le soutien d'un certain nombre de chefs protestants, dont Henri de Rohan, qui, on sent bien qu'il y a des fourmis dans l'épée, qu'il veut utiliser cette... En fait, la révolte nobiliaire, elle a pour but, à la fin, de renégocier avec le roi un certain nombre de droits. Et la stratégie d'Henri de Rohan, c'est de se dire, si je soutiens Henri de Condé dans sa révolte, peut-être que je pourrais revenir sur certains éléments de l'édit de Nantes qui sont contestés, voire obtenir mieux. Donc on est dans une tactique politique. Mais ça montre quand même que les protestants, là, commencent à s'agiter. Et la dernière affaire qui met le feu aux poudres, c'est l'affaire du Béarn. Le Béarn est une souveraineté pyrénéenne qui appartient à la famille de Navarre. Et quand Henri IV devient roi de France, il est roi de Navarre et roi de France, mais il n'associe pas les deux couronnes. Donc le roi de France est souverain du Béarn. Or, quand Henri IV adopte l'édit de Nantes en 1598, il adopte en France. Ils veulent imposer au Béarn. Mais les Béarnais refusent, pour une raison très simple. C'est que le Béarn, depuis 1566, est uniformément protestant. Établir l'édit de Nantes en Béarn, eh ben, c'est tout l'effet inverse de ce qu'on a en France. Ça veut dire que les protestants doivent rendre les églises aux catholiques, doivent restituer les biens, permettre au clergé de revenir. Et de fait, les élites béarnaises refusent. Henri IV n'insiste pas, et les choses en restent là. Louis XIII, à partir de 1615, décide d'appliquer l'édit de Nantes au Béarn, les Béarnais refusent, donc là on a une résistance qui est légale au départ. En 1617, Louis XIII annonce un édit d'union à la couronne qui associe les deux souverainetés et qui impose l'application de l'édit de Nantes au Béarn. Les notables béarnais refusent la restitution des biens des églises. Il faut quand même se dire qu'il possède les églises depuis 1566. On est en 1617. C'est pas rien de restituer. Il y a au moins deux générations d'acquéreurs qui sont passées là-dessus. Donc c'est compliqué. Et il faut une intervention armée en 1620 de Louis XIII qui descend à Pau, qui scinde véritablement les deux couronnes, impose l'édit de Nantes et permet l'installation de la réforme catholique en Béarn. Et cette intervention militaire en Béarn, c'est elle qui va faire réagir le parti protestant. Et j'en arrive à ma troisième et dernière partie, que je vais essayer de faire assez rapidement pour qu'on puisse, parce que les estomacs gargouillent. Mais nous voici donc à ces trois campagnes militaires, entre 1620 et 1629. Et premièrement d'abord, les hésitations des protestants français. En fait, au sein du parti protestant, en 1620, face à l'agression du Béarn, on va avoir deux tendances. On va avoir d'abord la position des plus radicaux. C'est face à l'intervention donc, en Béarn, les protestants sont réunis en assemblée générale dans la ville de La Rochelle. En fait, ils sont réunis avant. D'accord, ils ne vont pas se réunir parce qu'il y a le Béarn. Ils sont réunis en assemblée générale à La Rochelle. Le roi intervient. Et à partir de là, l'assemblée générale de La Rochelle, tout le monde est d'accord, se plaint de cette intervention et dit « Sire, vous n'avez pas à faire ça, c'est pas bien ». Du coup, Louis XIII ordonne à l'assemblée générale de se séparer. On est au printemps 1620. Il dit « Rentrez chez vous, c'est fini ». Et l'assemblée ne peut pas se tenir sans l'autorisation du roi. Si l'assemblée refuse de se séparer, elle désobéit, elle rentre à révolte. Voilà, l'enjeu est là. On a un débat à l'intérieur de l'assemblée pour savoir ce qu'on fait. Et dans ce débat, il est décidé de rester unis, donc de désobéir. Et c'est là que l'Assemblée devient une Assemblée en révolte et qui va justifier l'intervention militaire de Louis XIII. Les soutiens de cette Assemblée, ce sont des soutiens de quelques grands nobles. Le plus connu, c'est Henri de Rohan, dont vous avez le portrait derrière. C'est le meneur, noble breton, protestant convaincu, gendre de Sully. Il est avec son frère, Benjamin de Rohan, duc de Soubise. Ce sont les deux meneurs. On va trouver aussi en Languedoc Gaspard de Châtillon-Coligny, le petit-fils de l'amiral, qui lui va être fidèle pendant quelques années, puis finalement il va se ranger du côté du roi. Et surtout toute une gentilhommerie protestante à l'échelle locale qui vont soutenir cette prise d'armes. On va trouver quelques pasteurs, le fameux Daniel Chamier dont on vous a déjà parlé, mais à Montauban le plus connu c'est encore Pierre Béraud, sur lequel je ne reviendrai pas, mais c'est quand même un pasteur qui écrit un traité justifiant que les pasteurs doivent prendre les armes pour se battre et pour soutenir les armées. Voilà. En face de ces radicaux, on a les modérés. Position des modérés, à l'Assemblée de La Rochelle, les modérés sont mis en minorité, mais ils sont bien présents. Et il faut bien vous dire qu'en fait, dans la plupart des villes protestantes, on a un groupe d'individus dont la position est une position légaliste, qui se dit « l'édit de Nantes a permis la paix, il a permis le retour de la prospérité ». Vous prenez par exemple la ville de Castres. La ville de Castres s'installe à Castres, la chambre de justice mi-partie dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire des juges, ça veut dire des gens qui vont consommer sur place. Ça veut dire toute une notabilité, ce qui est une spirale bienfaitrice économiquement parlant pour la ville. Et la ville de Castres profite parfaitement du régime de l'édit. Je peux vous assurer que les notables castrés, face à l'appel d'Henri de Rohan de prendre les armes, il y a la moitié de la ville qui va dire « ça va pas, on est bien chez nous ». Et puis, si une fois qu'on prend les armes, le roi nous supprime l'édit de Nantes et qu'on devient interdit, et ça, ils ne le savent pas à l'époque. Nous, on sait que le roi ne va pas le supprimer. Mais prendre les armes en 1620 ou 1621, on ne le sait pas. Et donc, vraiment, il y a toute une notabilité protestante, toute une élite protestante dans les villes, au sein de la noblesse, qui va jouer la prudence et qui va dire « bon, bah, le roi, il faut continuer à négocier, et en négociant, on peut éviter qu'il nous... » Voilà, et ce qu'il a fait en Béarn, il a le droit, etc. Donc, ce milieu, dans le midi, ces gens-là, on les appelle les escambarlates. Ce sont ces gens entre deux chaises, ce sont ces gens qui ont les pieds écartelés. On ne sait pas trop sur quelle musique ils vont danser, en fait. C'est un petit ça. C'est évidemment péjoratif. Là, à la différence de Huguenot, ils ne se sont jamais appropriés. Un escambarlate, ça reste quand même plutôt négatif. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce milieu ? Eh bien, dans ce milieu de modérés qui préfèrent la paix, on va trouver la plupart des pasteurs. Les pasteurs huguenots du XVIIe siècle sont des pasteurs de paix. Et c'est paradoxal parce qu'on a des pasteurs, ces mêmes pasteurs sont très engagés, notamment dans la lutte théologique. Ils sont très engagés dans la controverse contre les catholiques. Ils défendent bec et ongle leur confession, mais ils vont défendre le légalisme. Et le pasteur le plus connu dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Dumoulin, pasteur de l'église de Paris, un type extrêmement important dans l'église, réputé pour son érudition, très engagé dans les combats théologiques, à tel point qu'il va être soupçonné de vouloir rejoindre l'Assemblée de La Rochelle, il va devoir s'enfuir à Sedan, mais Pierre Dumoulin est un pasteur qui va appeler systématiquement à l'apaisement. Et puis, surtout, la plupart de la noblesse protestante va rentrer dans le giron royal. On va trouver le Maximilien de Béthune, duc de Sully, on va trouver le duc de Lesdiguières, qui domine le Dauphiné, on va trouver Philippe Duplessis-Mornay, qui est un des grands penseurs depuis le XVIe siècle. On va trouver Henri, duc de Bouillon, prince de Sedan. Et ce que vous avez derrière moi, c'est les places fortes tenues par ces grands seigneurs. Vous voyez ? Et la plupart de ces grands seigneurs vont se soumettre. Quand Lesdiguières se soumet, en fait, il soumet tout le Dauphiné. Vous voyez ? Quand le duc de Sully va se soumettre, il soumet toutes les places de la région parisienne. Quand le duc de Bouillon se soumet, il soumet Sedan et toutes les places qui sont ici en Périgord. Voilà, donc ça veut dire que, au final, on a un parti protestant extrêmement divisé. Et ça, c'est une donnée qui n'existait pas au XVIe siècle. Et c'est un élément qui va considérablement le fragiliser dans son opposition au roi. Et c'est dans ce cheminement, cette fragilisation, que Louis XIII va oser partir en campagne. Il y a deux coups fameux sur lesquels je ne reviens pas, qui sont le coup de Navarinx. Vous avez ici, la gravure que vous avez ici, c'est l'introduction du catholicisme en Béarn. Vous voyez, Louis XIII qui parle à l'allégorie de cette femme-là, qui regarde le roi presque avec longueur et qui écrase l'hérésie. Voilà. Et vous avez ici la prise de Saumur. La prise de Saumur, vous voyez le gouverneur qui est Duplessis-Mornay, qui est un ancien gouverneur, un ancien ami d'Henri IV, et qui se soumet au roi. Deux événements symboliques de 1620-1621, dans lesquels Louis XIII montre qu'il ne fera pas de pitié, que les vieux serviteurs de son père, parce qu'à Navarinx, c'est aussi un vieux gouverneur fidèle d'Henri IV, les deux sont limogés pour remplacer ses amis, et qu'on a un roi qui va agir avec violence et qu'il exige la soumission. Ces éléments-là, il faut quand même avoir conscience que c'est du Louis XIII avant Richelieu. Hein. Richelieu, il arrive trois ans plus tard. On est en 1621. Nous, on sait que Louis XIII, il va gagner. Mais Louis XIII, il ne le sait pas. On a 36 ans de guerre de religion. On a toutes les places de sûreté que je vous ai montrées. Je vous laisse imaginer, et peut-être que Jean-Pierre Amalric en parlera tout à l'heure sur les projets de Louis XIII, c'est un vrai coup de dé que joue le roi. Je rentre dans une campagne, mais pendant tous les siècles précédents, Henri III, Henri IV, ils n'ont jamais réussi à soumettre les places protestantes. Et elles sont toujours là, ces places. Elles font peur. Et donc, si vous voulez, il y a un vrai culot du roi. Et le fait qu'il soit autoritaire, le fait qu'il soit intransigeant des Saumur et des Navarinx, c'est un coup de bluff. Attention, soumettez-vous, sinon regardez ce qui va vous arriver. Et eh ben, ça marche. On a la première campagne militaire de Louis XIII, on a trois campagnes en fait sur la période qui nous intéresse, vous les avez à droite, hein. On a trois guerres, 1621 à 1622, 1624 à 1626 et 1627 à 1629, on a trois campagnes. La première campagne, ce que vous avez sur la carte derrière vous, en bleu, vous avez toutes les places de sûreté qui se sont soumises au roi sans engagement militaire. Vous voyez ? Et vous avez en rouge, en couleur, celles qui ont résisté. Vous avez là la faillite du système militaire protestant, c'est-à-dire qu'ils se soumettent tous. Après Saumur, ils se soumettent tous. Pourquoi est-ce qu'ils se soumettent ? Parce que déjà, c'est les enfants de ceux qui ont fait les guerres de religion. C'est les fils. Certains sont en train de se convertir au catholicisme, comme à Lectoure, avec Fontrailles. Ils sont bien dans leur fonction. Le roi leur garantit de conserver leur titre de gouverneur s'ils se soumettent. Et eux, ils y voient leur intérêt. Et en fait, dans ce cadre-là, vous voyez que Henri IV, il a été plus malin qu'on pouvait le croire. Donner toutes ces places de sûreté aux protestants, c'était le moyen de les faire revenir dans le giron de ce qu'on appelle la fidélité monarchique. Et Louis XIII, il recueille ça comme un fruit mûr. Alors, nous, on le sait aujourd'hui, une nouvelle fois, en mai 1521, Louis XIII, il n'en sait rien. Donc il faut un sacré courage. Mais après, ça marche. Et donc, la chevauchée de Louis XIII, vous voyez, c'est la flèche rouge, il traverse tout le Poitou en 1621. Il traverse, il rejoint la vallée de la Garonne et il va buter devant Montauban. Mais, de fait, il aurait pu être arrêté 15 fois avant d'aller buter devant Montauban. Et l'année suivante, campagne de 1622, même parcours. Donc les types, ils n'ont pas repris les armes. Ils passent à Saint-Antonin et Nègrepelisse, vous savez ce qui se passe. Il évite Montauban et il va soumettre Montpellier, un assiégeant Montpellier, et la ville est soumise. Le système protestant s'effondre. Le système protestant tel qu'il aurait dû résister s'effondre. Et on a la troisième campagne de Louis XIII en 1629, qui part de Paris, cette fois-ci, il part même plus dans l'ouest, là, sachant que La Rochelle est assiégée, et il va directement sur Privas, sur Alès et sur Nîmes, à ce moment-là. Alors, dernière question, et j'en finirai là, qui a résisté au roi? Du coup, vous allez me dire, il y a quand même eu des guerres. Saint-Antonin a résisté. Eh bien, ce n'est pas le dispositif hérité de l'édit de Nantes qui a résisté au roi. Les places de sûreté ont plutôt été un moyen de reprise de contrôle du parti par la fidélisation des gouverneurs. Finalement, payer les gouverneurs, ça n'a pas été une faveur que le roi de France a fait au parti, ça a été d'introduire une sorte de cinquième colonne au sein de la puissance militaire du parti pour les récupérer. Et là, on voit la profondeur du processus de pacification. Ceux qui ont résisté, ce sont d'abord les villes huguenotes qui ont été capables de se défendre elles-mêmes. La Rochelle, Montauban, Nîmes, Montpellier, Castres, vous les avez ici. Les villes les plus importantes, ce sont les villes qui avaient les moyens financiers de leur propre guerre, des murailles, des arsenaux, une garde urbaine, des revenus pour payer des troupes, à l'autonomie politique suffisante. Et avec une élite protestante intransigeante suffisamment forte. Mais si vous prenez le cas de Castres, par exemple, ou même de Montauban, il a fallu faire un véritable... Rohan, à Castres, il fait un véritable coup d'État. Il arrive, il chasse Bouffard Madiane, qui est son premier allié, il le chasse de la ville parce qu'il refuse la guerre. Et donc, voilà, il faut un milieu intransigeant aux affaires municipales. Donc, ce n'est pas le parti, en fait. Il faut que ce milieu intransigeant réussisse à prendre le dessus. Et à partir de là, c'est autour de ces villes, ce que vous voyez ici, qu'on va avoir les terrains d'affrontement. C'est autour de ces villes qu'on va avoir les terrains d'affrontement parce que ces villes vont alimenter les résistances d'un plat pays par des circulations de troupes, par l'alimentation par toute une petite gentilhommerie qui va venir se battre à ce niveau-là. Le bilan de tout cela, eh bien, c'est 3 paix. Une paix en 1622, une paix en 1626 et une paix en 1629. Le but du roi dans ces 3 paix était de soumettre sans humilier. Ça voulait dire quoi? Il a toujours appelé ses paix les édits de grâce. Le roi fait grâce parce qu'il amnistie, parce qu'il pardonne. Alors, ça veut dire quoi pardonner? Ça veut dire confirmer l'édit de Nantes. Ah non, avant de châtier, on confirme l'édit de Nantes, toujours. C'est-à-dire que la coexistence est maintenue. Par contre, ça veut dire qu'on amnistie pour tous les actes de révolte. Le duc de Rohan, il n'a pas été inquiété. Bon, il est allé à Venise parce qu'il a senti quand même qu'il ferait une meilleure carrière en dehors de France, mais il n'a pas été inquiété pour ces affaires-là. Donc il y a une amnistie. En revanche, il y a un démantèlement de l'identité politique du protestantisme. Les assemblées générales sont interdites. Cette fameuse quatrième garantie de l'édit de Nantes, ce quatrième dont je vous parlais tout à l'heure, lui est supprimé. Progressivement, hein. En 1622, on supprime les places fortes qui sont déjà soumises, en 1626 d'autres, et en 1629, on finit tout. Donc il n'y a plus de parti protestant. Mais cette démilitarisation du parti protestant accompagne aussi une démilitarisation plus grande des places fortes à l'intérieur du royaume. En fait, Richelieu, en 1626, fait adopter un édit qui interdit les fortifications internes au royaume. C'est là où une ville comme Toulouse va perdre ses murailles, une ville comme Lyon va perdre ses murailles. Ça veut dire que les protestants, ils s'inscrivent là, dans un processus qui les dépasse, dans un processus d'apaisement, de pacification et de soumission, qui voit la perte de leur identité politique, mais comme toutes les autres villes du royaume. Et ce qui se passe en 1629, c'est un processus d'apaisement, qui est loin d'être achevé encore à ce moment-là, on va avoir pas mal de révoltes, mais une politique d'apaisement qui passe par la destruction des murailles et d'un potentiel militaire. Et à côté de ce processus d'apaisement, la volonté de la couronne de voir disparaître une identité politique qui était celle des protestants, tout en conservant une identité confessionnelle qui leur est laissée par le maintien de l'édit de Nantes. Je vous remercie.
Bon, on peut remercier très vivement Pierre-Jean Souriac de ce remarquable exposé.